l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, a invité la presse pour évoquer les actions fortes de la CEA. Pour commencer, il est question, évidemment, des agriculteurs.
On est de tout cœur avec le monde agricole. L'Alsace est une terre nourricière. Nous tenons à ce qu'elle le reste. C'est une souveraineté qui est essentielle à la vie quotidienne de nos concitoyens. Je dis souvent, se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir fait partie des fondamentaux de la vie qu'il faut garantir sur nos territoires. Je comprends que le monde agricole soit exaspéré. Il y a quelques mois, je voyais une agricultrice de montagne qui n'arrivait pas à se faire un salaire. Aujourd'hui, le monde agricole se sent déconsidéré, mal payé. Donc je comprends leur exaspération, d'autant plus que les exigences normatives les mettent aussi en difficulté. Donc, nous sommes vraiment en soutien vers ce secteur d'activité, mais ils se font aussi parfois injustement critiquer. Donc tout ça, pour eux, je considère que la coupe est pleine et je voulais à la fois moralement leur apporter le soutien, sachant que pour la collectivité européenne d'Alsace, c'est difficile parce qu'on est bridé sur notre capacité à les soutenir. Vous savez que suite à la loi NOTRe, les compétences ont été données aux régions et que quand on veut pouvoir agir et soutenir le monde agricole, il faut qu'on demande l'autorisation au Grand Est. Vous voyez bien que c'est quand même pas idéal. Oui, parce qu'en fait, il y a les normes européennes qui sont déjà en soi des contraintes supplémentaires, mais la tradition française est de juxtaposer des normes françaises aux normes européennes. Vous savez, les hauts fonctionnaires parisiens, ils disent « Ah, mais les Européens, ils n'ont pas pensé à ceci, ils n'ont pas pensé à cela. » Et donc, on fait encore de la surréglementation en France. On a ces habitudes-là et je comprends que ce ne soit plus possible à appréhender parce que derrière chaque norme supplémentaire, il y a des charges, des complexités administratives, des mécompréhensions, des coûts du coup supplémentaires. C'est vrai pour l'action publique en général, c'est vrai bien sûr pour les entreprises et en particulier les acteurs agricoles.
Vous craignez une crise des vocations ?
Elle est déjà là. J'ai été assez souvent à la rencontre des agriculteurs depuis 3 ans. Je voyais bien les enfants des agriculteurs qui ne veulent pas reprendre l'exploitation. Et quand je demande à des salariés s'ils voudraient, eux, assumer cette responsabilité, ils disent « on veut bien être salarié, mais on ne veut pas être propriétaire exploitant ». Parce que le salarié, au moins, il peut être contenu dans des horaires fixes. L'exploitant propriétaire, il travaille nuit et jour, il n'a pas de vacances. Ce n'est pas forcément ce qui est plus attractif pour des jeunes générations.
Et concernant l'uniforme ?
Alors, il y a un débat, effectivement, sur l'uniforme dans les collèges. Alors, quand on a entendu ce débat, alors c'était quelque chose qui avait déjà été évoqué à certains endroits. Donc, nous, j'ai simplement voulu savoir ce que ça coûterait si la collectivité devait, pour les 147 collèges, assumer la charge de fournir les vêtements. On arrive assez rapidement à plus de 8-9 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité ? Je m'interroge. Par exemple, aujourd'hui, et ça rejoint le sujet qu'on venait d'évoquer autour du monde agricole, l'alimentation, pour moi, dans les collèges, elle est importante. Notre capacité à faire travailler plus facilement les collèges et les restaurants des collèges avec les producteurs du territoire, c'est un vrai enjeu pour nous. Cet enjeu-là, il peut justifier de dépenses supplémentaires en matière de coûts d'achat des produits. Bah, je préfère mettre cet argent-là que dans des tenues. On peut pas donner, ça ne peut pas être qu'une seule tenue, on se change, tout le monde ne fait pas une lessive tous les soirs. Donc pour pouvoir se changer, il faut avoir de quoi changer les vêtements. On peut se salir dans la journée. Enfin bref, il y a des tenues d'été, des tenues d'hiver. Donc c'est pas si simple, quoi. Et alors moi, je suis quand même toujours un petit peu surpris quand le président de la République évoque des sujets qui ne relèvent pas de sa responsabilité, puisque les collèges, aujourd'hui, c'est les collectivités départementales qui assument les missions à la fois des travaux, d'entretien et de la restauration. Donc du coup, que le président fasse confiance au territoire pour les missions dont ils ont la responsabilité.
La décentralisation, toujours d'actualité ?
Ah oui, bien évidemment. Vous savez, la Collectivité européenne d'Alsace a vraiment entamé un processus, depuis sa création, depuis 3 ans, un processus démocratique fort avec nos concitoyens. On avait fait d'abord les 80 jours à la rencontre des habitants. Ensuite, on avait créé le Conseil de développement avec 100 Alsaciens qui font le lien avec les élus sur l'action publique. On a fait la grande consultation citoyenne. Je rappelle, 92% des Alsaciens qui veulent le retour d'une Alsace institutionnelle à part entière. On vient de finir la contribution citoyenne. 2400 Alsaciens qui ont pris la plume pour faire des propositions, qui ont imaginé l'Alsace de demain et comment on doit la faire évoluer. Tout ce travail de citoyenneté, ce travail de citoyenneté vraiment exceptionnel, inédit en France. Il doit être entendu à Paris. L'Alsace peut être un électrochoc démocratique en créant une collectivité qui serait une collectivité unique qui reprend les compétences département et région. Ce serait plus simple pour nos concitoyens. Ils auraient pu à se poser la question qui fait quoi. Ce serait plus cohérent dans l'action publique parce qu'on pourrait avoir une approche globale des politiques publiques et pas une approche segmentée en silo des politiques publiques. Donc on améliorerait le service public pour nos concitoyens. Et puis on donnerait un supplément d'âme. Je suis persuadé que si le président de la République valide la création de notre collectivité unique à l'échelle Alsace, qu'on devienne une région à part entière, mais les Alsaciens, ça les reboosterait pour s'engager, pour s'investir dans la vie locale, parce qu'ils seraient fiers de retrouver cette capacité à agir à l'échelle alsacienne. C'est l'échelle à laquelle ils sont attachés, ils aiment leur territoire, leur périmètre, et ils ont envie de s'investir sur ce périmètre-là, c'est le périmètre qui a du sens.
Vous attendez une prise de position de la part de l'État cette année ?
Ah oui, bien évidemment, on ne peut pas continuer à tergiverser. Aujourd'hui, on a fait en Alsace toute une démarche que le président de la République appelle de ses voeux, démarche démocratique, de consultation. Il parle beaucoup de référendum. Eh ben, nous, on a fait les choses avec les Alsaciens pour connaître la position des Alsaciens. On a rassemblé 2 départements, la collectivité européenne d'Alsace qui a rassemblé le conseil départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. C'est un fait exceptionnel sur le territoire national. Donc, nous, on a fait nos preuves. On montre que le président parle d'audace, d'action. L'audace, on l'a, nous, en Alsace. Alors, moi, je dis au président de la République, osez, monsieur le président. Nous, on vous donne la possibilité d'oser et d'expérimenter, d'être un laboratoire de la démocratie. Il suffit qu'ils s'en saisissent.
Et concernant le baromètre social, enquête qui vise à connaître le bien-être des personnels des services de la collectivité européenne d'Alsace.
Si vous voulez, aujourd'hui, la force de la collectivité européenne d'Alsace, c'est à la fois, bien sûr, ces 80 élus qui s'investissent pour servir nos concitoyens, mais c'est les 6500 agents qui mettent en œuvre à la fois la volonté politique et le service public attendu par nos concitoyens. Je rappelle qu'on agit aussi bien sur les routes que sur les collèges, que sur la protection de l'enfance, le vieillissement, le handicap, l'insertion. Donc on a multiples missions qui sont importantes pour nos concitoyens. Et donc la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est précieux pour nous. On a une collectivité jeune qui a 3 ans, qui a rassemblé 2 départements, qui avait des cultures différentes. Donc tout ça, ça demande un temps d'adaptation. Nous, ce qui était important, c'est au bout de 3 ans de se dire où on en est, comment se sentent les agents. Ça a été plutôt très rassurant, ce baromètre social, parce que le climat social est ressorti plutôt positif. Alors il y a des marges de progrès, comme dans toutes les organisations. Du coup, on se saisit des marges de progrès. On va mener tout un plan d'action avec le directeur général des services en lien avec les syndicats et avec l'administration. Dans les années futures, les gens se sentent encore mieux dans la collectivité. Mais en tout cas, le baromètre social était rassurant par rapport à ceux qui avaient des critiques, imaginant qu'il y ait des problèmes majeurs dans la collectivité. On se rend compte que c'est pas le cas. Mais vous êtes après dans une collectivité de 6500 agents. Regardez dans vos familles, regardez dans vos communes de 6500 habitants. Est-ce que tout est toujours parfait? Malheureusement, il n'y a aucun système parfait. Ce serait trop triste si tout était parfait d'ailleurs.
Il y a des attentes précises des syndicats ?
Alors bien évidemment, il y a toujours des demandes syndicales, ils sont dans leur rôle et ils sont aussi dans le suivi de la situation et ils ont un rôle de veilleurs et d'alerte. Et chaque fois qu'ils nous font des alertes, on y attache une attention particulière pour faire évoluer les choses. Vous savez, moi, je ne suis pas plein de certitudes. Tous les jours, je me réinterroge, on essaie de progresser, de s'améliorer. Moi, ce que je vois quand même, parce que là, je suis en train de faire toute une série de cérémonies de vœux dans les 7 territoires de la collectivité européenne d'Alsace, où j'invite les agents, un échange avec les agents. C'est du bonheur. Hier, on prenait des photos ensemble. Il y a un attachement des agents à la collectivité européenne d'Alsace, au service public que nous rendons. Et donc, il peut y avoir des situations, quelques situations de mal-être, qui ne sont pas forcément non plus liés à la collectivité. On est dans une société compliquée, où c'est simple pour personne. Et donc, forcément, il peut y avoir des situations où les gens ne se sentent pas bien. Donc, on doit y être particulièrement attentif. Vous savez, nous, on est vraiment dans une collectivité où la considération des personnes, elle est importante.
Les projets, d'ailleurs, de la CEA pour 2024.
Déjà, bien évidemment, toujours améliorer le service public. Hier encore, je discutais avec des agents de la Maison départementale des personnes handicapées. On se bat pour toujours réduire les délais, pour mieux servir nos citoyens. Donc, on est toujours on réinterroge toujours nos méthodes pour voir si on peut améliorer encore le service pour les habitants, pour recréer le lien aussi avec les habitants. Mais au-delà de ça, il y a des stratégies politiques qui sont en train de se définir précisément sur des compétences fortes en matière de politique de l'habitat. Au printemps, on présentera à l'ensemble des élus la stratégie sur la politique de l'habitat. On a la délégation des aides à la pierre. Et à partir de cette année, on l'a dans le Haut-Rhin. On l'avait dans le Bas-Rhin, mais on ne l'avait pas dans le Haut-Rhin. Maintenant, on l'a surtout sur le périmètre Alsace. Et donc, du coup, on veut renforcer la politique de l'habitat dans un contexte où je sais que les associations ont parfois du mal à se loger dans des logements qui sont aujourd'hui adaptés à la perte d'autonomie, par exemple, pour les personnes âgées ou dans des logements qui sont suffisamment isolés. Donc là, on est dans des soutiens, des aides aux personnes. Donc, politique de l'habitat. Autre sujet qui est cher, aux Alsaciens, cher aux Français en général, c'est les enjeux de santé. Donc là, on est en responsabilité sur les politiques médico-sociales, mais on a aussi quelques actions en matière de santé, en matière de politique en direction de nos aînés. On veut vraiment améliorer encore la bienveillance autour des aînés dans leur vieillissement, apporter de la dignité à l'accompagnement des personnes les plus fragiles. Donc on est sur toute une série d'actions qui vont se déployer dès le printemps. Et puis on est bien sûr attentif au contexte sociétal et social. Et chaque fois qu'il y a un trou dans la raquette, une difficulté particulière, on essaye d'être proactif. On l'a été au moment du Covid, quand qu'on a porté des solutions de masques, on avait le vaccinodrome, on avait le standard téléphonique. Donc on est attentif aux difficultés de nos concitoyens. Et dans le cadre de nos compétences, on essaye d'agir quand on n'est pas bridé pour agir.
La semaine dernière, on était là, il y avait une manifestation de personnes pro-palestiniennes qui réclamaient que vous retiriez ce drapeau que vous avez mis en hommage aux otages français également, qui sont retenus par le Hamas. Vous ne cédez pas là-dessus, contrairement à la mairie de Strasbourg, par exemple ?
Non, bien évidemment, je ne céderai pas. J'ai beaucoup de respect pour les Palestiniens, la question n'est pas là. Mais les attentats qui ont été commis sont inacceptables. Qu'on soit solidaire avec la communauté juive, on a une communauté juive très investie en Alsace, avec qui on a une relation extraordinaire, apaisée. Et aujourd'hui, c'était pour moi important qu'on montre notre solidarité vis-à-vis de la population israélite et de la communauté juive de notre territoire.
Et qu'est-ce que vous dites justement quand il y a des manifestations à ces personnes qui réclament le retrait de ce drapeau ? Comment est-ce que vous leur expliquez ça ? Parce que pour eux, c'est deux poids, deux mesures par rapport aux victimes palestiniennes.
Alors bien évidemment, pour être allé en Israël, j'ai eu des échanges avec les responsables israéliens et j'appelle de mes voeux un apaisement sur ce territoire, à essayer de trouver des solutions de réconciliation. Vous savez, le territoire alsacien est un peu une terre de réconciliation, puisque on était quand même adversaires entre nos amis d'aujourd'hui, allemands et français. On a eu des guerres fratricides et en quelques années, finalement, on a pu montrer qu'on peut construire une paix solide et forte, et même une amitié. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'on arrive à retrouver une amitié, une concorde entre les peuples israéliens et palestiniens. Je pense qu'il peut y avoir une place pour les deux. Être dans une forme de violence, d'agressivité, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode pour avancer. Je comprends la souffrance aussi, autant je soutiens je suis de tout cœur avec les Israéliens qui ont subi les drames affreux de ces attentats, autant je comprends aussi la peine des Palestiniens qui se retrouvent en souffrance depuis de nombreuses années. Donc j'espère, j'appelle de mes voeux une paix humaine, un apaisement dans ces tensions-là. Je suis inquiet, je ne vous cache pas que je suis inquiet, notamment par rapport à des expressions, quand je vois des expressions parfois sur des murs, des expressions de soutien à Hitler, etc., des choses comme ça qui reviennent sur les territoires. Moi, je suis vraiment très inquiet. Vous savez, je viens de Schirmeck, il y avait un camp de redressement, un Schirmeck nazi. Le matin, quand j'ouvrais mes fenêtres de chez mes parents, je vois la flamme du camp du Struthof. Je mesure ce que les positions extrémistes peuvent générer pour les populations et les souffrances que ça peut entraîner. Donc, j'appelle vraiment de mes voeux à un apaisement dans les tensions.
C'était le président de la Collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.